les enfants de Chronos.
Lionel Mazet, archéologue. Chers auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, nous commençons un cycle de 5 émissions sur les abbayes et prieurés du Valois. À travers les 5 exemples que nous étudierons, j'évoquerai aussi 5 ordres religieux différents qui nous permettront de constater que l'idée que l'on se fait parfois des moines du Moyen-Âge est assez éloignée de la réalité et qu'on applique parfois même ce terme à tort à des religieux qui n'en sont pas. Nous verrons aussi qu'il peut y avoir des différences très importantes entre les différents ordres. Abbaye, prieuré, bénédictin, chartreux, ordre mendiant, chanoine, tout cela constitue un ensemble parfois nébuleux dans lequel nous allons tenter ensemble de voir un peu plus clair. J'ai choisi, chers éditeurs, de commencer par la chartreuse de Bourgfontaine. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison toute personnelle. Ceux d'entre vous qui me connaissent savent que je suis un grenoblois émigré en Picardie. Aussi était-il naturel que je commence par un ordre originaire, comme moi, des montagnes dauphinoises. En effet, l'histoire des Chartreux commence en 1084, lorsque, d'après la légende, Hugues de Châteauneuf, évêque de Grenoble, fit un rêve dans lequel, accompagné par 7 étoiles, il était guidé par Dieu jusqu'à un vallon retiré et désert du massif montagneux de la Chartreuse au nord de Grenoble. Le lendemain, tandis qu'il s'interrogeait encore sur le sens de ce songe, un petit groupe se présenta à lui. 7 hommes, mené par un certain Bruno, qui souhaitait se retirer du monde et venait demander à Hugues un lieu où s'installer. Comme vous le devinez, Hugues aurait alors guidé les visiteurs jusqu'au lieu qu'il avait aperçu en rêve, et les 7 hommes y entreprirent la construction de leur monastère, qui prit le nom des montagnes qu'il abritait du monde. Bruno et ses compagnons avaient opté pour une organisation originale, qui fut formalisée dans les années 1120 par le 3e prieur de la Grande Chartreuse. La plupart des moines sont des bénédictins. Ils suivent la règle de Saint-Benoît, qui leur impose entre autres la vie en commun. Les chartreux, eux, optèrent pour un mode de vie qui mêlait le cénobitisme, c'est-à-dire la vie commune des bénédictins, et la solitude des ermites. Pas de dortoir commun, mais des cellules individuelles, accompagnées d'un petit jardin dans lequel le chartreux passe seul la plupart de sa vie. Les jours ordinaires, ils ne se réunissent que pour la messe, les vêpres, les matines. Une seule exception, le spaciment, une promenade hebdomadaire en groupe, hors des murs du monastère. Les dimanches et jours de fête, 2 offices en commun s'ajoutent, ainsi que le repas du midi, la réunion du chapitre et une récréation commune. Tout le reste de leur temps est passé dans la solitude, la prière et le travail. Ajoutez à cela l'abstinence totale de viande et les diverses mortifications qu'ils s'infligent, et vous obtenez l'un des ordres les plus religieux les plus austères. Les chartres feraient presque passer les cisterciens pour de joyeux drilles. La rigueur de cette vie a dû décourager bien des vocations. Elle n'a pourtant pas empêché l'expansion de l'ordre, qui atteint son apogée au XIVe siècle, avec environ 150 maisons. Aucune abbaye, au sens strict du terme toutefois. Une abbaye, comme son nom l'indique, est dirigée par un abbé. Par humilité, les chartreux ont rejeté ce statut. Le supérieur d'une chartreuse n'est que prieur. C'est précisément au XIVe siècle, période de la plus grande extension de l'ordre, que la chartreuse de Bourgfontaine fut fondée. Le fondateur était illustre. Il s'agissait de Charles de Valois, frère du roi Philippe le Bel. En 1316, il achète aux hospitaliers la fontaine Notre-Dame. Au cœur de son apanage du Valois, à mi-chemin entre Villers-Cotterêts et La Ferté-Milon. C'est là que s'élèvera le monastère. Charles de Valois s'y fait également bâtir un manoir. Le mode de vie des chartreux a bien évidemment des conséquences directes sur l'agencement de leur couvent. Pour l'essentiel, une chartreuse ressemble à n'importe quelle abbaye. La principale originalité consiste en l'absence d'un dortoir commun pour les pères, remplacé par leurs cellules individuelles, de véritables petites maisons, austères et minimalistes mais confortables, qui entourent le cloître. Charles de Valois mourut en 1325. S'il était mort 3 ans plus tard, il aurait peut-être vu l'achèvement de la chartreuse. Il aurait surtout pu monter sur le trône. Cet honneur revint à son fils, Philippe VI, premier roi de la dynastie des Valois. Le nouveau souverain acheva l'œuvre de son père et fut un grand bienfaiteur de la chartreuse. À sa mort, c'est à Bourgfontaine qu'il confia son cœur. Jean II, fils et héritier de Philippe VI, se rendit lui aussi à plusieurs reprises dans le logis bâti et achevé par son père. La Chartreuse eut certainement à souffrir de la guerre de Cent Ans, mais ce sont surtout les dégâts qu'elle subit durant les guerres de religion qui sont restés dans l'histoire. En 1567, tandis que des habitants s'étaient réfugiés dans les murs de l'enclos, elle fut assaillie, prise et pillée par les protestants. Le tombeau du cœur de Philippe VI, entre autres, aurait été brisé. Attention toutefois, ces destructions nous sont toutes racontées en 1652 par Antoine Muldrac, un moine cistercien de l'abbaye de Lampon, dont nous reparlerons. Évidemment, Muldrac est partial. Il qualifie les protestants d'ennemis de l'Église et de l'État. Enfin, la Révolution ne fut pas tendre non plus avec la Chartreuse. Elle avait pourtant bien traversé le XVIIIe siècle, qui est souvent une période de déclin pour les monastères. En 1783, elle accueillait encore 30 religieux et 10 oblats, ce qui est considérable. Elle fut pourtant, comme tant d'autres couvents, vendue comme bien national et servie de carrière de pierre. Aujourd'hui, il reste bien peu du monastère d'origine. On peut y distinguer deux parties. D'une part, une avant-cour, ancien espace technique et de travail, encore relativement ouvert au monde extérieur. On y trouve une chapelle, une tour du XVIe siècle et plusieurs granges. Elle était séparée de la Chartreuse proprement dite, qui, elle, était réservée aux frères. Il en reste les murs de l'église, une tour, une partie de la résidence des Valois et une enceinte. Des fouilles archéologiques menées à partir de 2014 par Sheila Bond et Clark Main ont apporté de nouveaux éléments sur l'église, le cloître et les cellules des Chartreux. Elles ont notamment révélé l'existence d'une rétrochapelle datée du dernier tiers du XVIe siècle à l'arrière de l'abside. L'abbaye a donc bien bénéficié d'importants travaux après 1567, ce qui semble confirmer le récit d'Antoine Muldrac. La richesse du mobilier liturgique saisi en 1793, les descriptions des belles boiseries de l'église ou du marbre de l'autel et les décors de la façade de l'église, pourtant assez modestes, auraient peut-être fait tiquer Saint-Bruno. Il témoigne pourtant de la réussite de ce monastère de fondation princière qui passait pour une des plus grandes maisons de son ordre. Je ne doute pas, chers auditeurs, que pour bon nombre d'entre vous, la Chartreuse évoque tout autre chose que des moines austères et retirés. Je sais que certains d'entre vous pensent plutôt à la liqueur. Eh bien, pour ceux qui se poseraient la question, cette liqueur est bel et bien produite par les moines de la Grande Chartreuse. On prétend que seuls deux d'entre eux en connaîtraient la recette. Mais saviez-vous qu'il y a bien un lien entre la liqueur de Chartreuse et le Valois ? En effet, en 1605, le maréchal François-Annibal d'Estrée offrit aux Chartreux de Vauvert, à côté de Paris, la recette d'un élixir médicinal. L'élixir fut perfectionné jusqu'en 1737, date à laquelle la recette définitive fut fixée par un frère de la Grande Chartreuse. Or, François-Annibal d'Estrée était marquis de Coeuvres et comte de Nanteuil-Audouin. Cette liqueur si emblématique des montagnes dauphinoises doit donc son existence à un homme originaire du Valois. Nous avons commencé notre série avec un monastère rural et isolé, appartenant à un ordre original. Demain, nous changerons du tout au tout, avec une abbaye urbaine dépendant du plus grand ordre monastique du Moyen-Âge, Saint-Arnoult de Crépy. We'll be right back.